T'sais, on va présenter c'est qui le roi. Okay? On parle de Assuérus. Souvenez-vous que c'est Xerxès, ce roi-là connu dans l'histoire, et on va voir justement sa grandeur. On commence avec les 9 premiers versets. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Verset 5. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, dans la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin, dans la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait d'abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. OK, on présente ici Assuérus. On présente qu'est-ce qu'il fait, on présente sa grandeur, sa richesse, tout ce qu'il possède. Et regardez son royaume. Son royaume était gigantesque. C'est Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Tantôt, je vous disais que la Perse prenait victoire sur différents peuples. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il les assimilait. Il rentrait dans la Perse et ces gens-là devaient maintenant se conformer à la langue des Perses, se conformer aux lois des Mèdes et des Perses. Et suivre maintenant l'ordonnance du roi. Alors, Assuérus était rendu très, très, très riche. Et Assuérus, son trône était à Suse. Tantôt, je parlais de Néhémie. Ben, le roi Artaxerxès était lui aussi à Suse. Probablement au même palais, à ce même endroit-là, où ce qu'on voit Néhémie, le roi. Alors, la Suse est la capitale de la Perse. Alors, à la troisième année, Assuérus a fait un festin. Qui est invité au festin? Regardez bien. Les princes, les serviteurs, les commandants de l'armée des Perses, des Mèdes, les grands chefs des provinces furent réunis en sa présence pendant 180 jours. Alors, c'est un festin. On comprend aussi avec l'histoire parallèle que Xerxès est en train de préparer aussi une prochaine bataille, d'où dans l'histoire, Xerxès a eu une grande défaite à la Salamine. Et les historiens, autant ceux qui ont la foi que ceux qui ne l'ont pas, vont associer le chapitre 1, ce qui se passe, justement à ce meeting-là qui se passe entre les commandants, entre les princes, entre les chefs, pour voir la prochaine attaque qui va se faire sur la Grèce. Et c'est pour ça qu'on arrive, juste une petite parenthèse rapide, au chapitre 2, puis Assuérus est triste. Ça marche pas bien. Ça se passe pas. Et là, il se souvient de tout ce qui s'est passé. Et c'est parce qu'il revient dans sa maison et il a perdu une grande défaite connue dans l'histoire. Et alors qu'on peut placer entre le chapitre 1 et 2. Mais on voit à travers cette grande richesse-là, de grande libéralité, de choses magnifiques. Verset 4, on parle de splendide richesse, de son royaume, l'éclatante magnificence, de sa grandeur. Tous les gens sont invités, ces chefs-là. Et là, regardez verset 5. Lorsque ces jours furent écoulés, lorsque les 180 jours ont été terminés avec les princes, avec les chefs, il se passe un autre 7 jours de fête. Qui sont les invités? Tout le monde, du plus grand au plus petit, tout le monde est invité. Et là, c'est vraiment la fête. Là, c'est vraiment le temps où ce que le meeting, où ce que le festin avec les grands s'est passé et passé. Et là, on voit dans verset 6, par exemple, comment est-ce que le palais pouvait être décoré avec ce marbre, cet or, le vin royal qui est donné avec la libéralité du roi. Le roi, en même temps, c'est bien de voir qu'il respectait la volonté de chacun. Hein? Il ne force pas personne. On voit quand même un trait de son caractère. Et il donne beaucoup de choses. Et là où ce que je vais attirer votre attention, c'est le verset 9, on l'a lu. De son côté, la reine, qui était à cette époque-là, Vasti, elle aussi, elle faisait un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Donc, Assuérus fait un festin pour les hommes, pour les grands et pour tout le peuple. Et de l'autre côté, Vasti, dans la maison royale, elle a invité les femmes des commandants, les femmes des chefs, les femmes, toutes les grandes femmes qui accompagnent les hommes. Elle prend, la reine, elle prend ces femmes-là et fait un festin aussi pour les femmes. Ça place le contexte un peu de ce qui s'en vient. Est-ce que Dieu est présent? Est-ce que Dieu est là? On a l'impression de juste entendre une histoire, quelque chose qui nous est raconté, mais Dieu prépare le terrain. Il y a quelque chose qui se passe de côté parallèlement avec ce qui se passe avec Esther. On n'a pas beaucoup de son histoire avant, mais Dieu est en train de préparer le terrain. Dans cette époque-là, se prépare le plus vieux conflit du monde va éclater au milieu de la plus grande puissance qui existe. La guerre entre le roi et la reine. Le plus vieux conflit du monde entre l'homme et la femme. Et là, je ne veux pas vous faire tomber en bas de votre chaise, on va regarder ce que ça dit. Versets 10 et 12. Le septième jour, comme le cœur du roi a été réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les sept eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Le roi, on est au septième jour. Hein? Vous vous souvenez, je parlais de 180 jours, premier festin. Un deuxième festin qui était de 7 jours, et là, on est à la fin. Dernière journée, le roi et le cœur du roi, verset 10, a dit, était réjoui par le vin. Et là, il a envoyé ses eunuques. Il dit, là, va chercher ma femme, va chercher Vasti, Miss Perse, puis emmène-la pour qu'elle parade devant nous. Hein, la femme du roi, là, c'était on imagine, là, la femme de Xerxès, probablement que ces hommes-là recherchaient, premièrement, des jolies femmes, des belles femmes, et puis on va le voir aussi plus tard avec Esther, ça va se confirmer, mais cette femme-là, puis le texte dit, était jolie de figure. Alors là, le roi, il dit, va chercher ma reine, va chercher Vasti, puis qu'elle vienne devant nous. Un conflit va éclater entre Assuérus et puis Vasti. Parce que Vasti est placée dans une situation où ce que son mari demande à ce qu'elle vienne parader devant lui, devant tous les gens qui sont là en festin, et là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit dire oui ou est-ce qu'elle doit dire non? Est-ce que j'ai assez d'arguments ce matin pour pouvoir juger cette situation-là puis dire qui a raison, qui a tort? C'est pas nécessairement évident, mais Esther est dans une situation déchirante. Il veut que sa femme, Assuérus veut que sa femme vienne, et puis tous les hommes sont là, sont enivrés. Il y a certains érudits, certains historiens qui disent qu'elle devait venir sans voile, ce qui était chose scandaleuse aussi à l'époque, de venir sans voile. Et d'autres érudits vont dire qu'elle devait venir uniquement avec la couronne, ce qui est évidemment encore pire. Et alors, la reine a dit non. La reine a dit non aussi avec la compréhension de l'époque de ce temps-là. Elle dit non. Elle dit, voyons donc, je ne peux pas y aller. Regardez, on va continuer de lire. Eh bien, on va relire verset 2. « Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut quoi? Il fut très irrité et puis enflammé de colère. Ma femme, elle vient pas. J'ai demandé de venir parader. Et puis là, elle vient pas. Puis là, il est enivré. Et là, c'était le parti. Et puis là, il est enflammé de colère. Imaginez la honte de l'homme le plus puissant de la terre se faire dire non par sa femme. Là, il y a un conflit qui existe. Il y a un conflit qui est en train de se créer. Vasti, qui est au sein d'une scène abjecte, dit non à ce qui était demandé par son mari. Puis en résistant à cet acte-là, insultant et indigne, et on comprend aussi, elle a pris ouvertement position contre l'homme le plus puissant de l'univers, en disant « Non, j'irai pas ». Il y a un autre conflit qui est en train qui va se glisser. C'est que les commandants, les chefs, les avocats qui sont là, ils ont peur de jurisprudence. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Imagine, là, la reine vient de dire non au roi à quelque chose qu'il lui a commandé. qu'est-ce qui va se passer avec les autres femmes dans le peuple que moi je commande? Mais c'est vrai, regardez, lisez avec moi. C'est pas moi qui l'invente. On va lire verset 13. Alors le roi s'adressa au sage qui avait la connaissance des temps. Bon, des avocats. Car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Ils avaient auprès de lui Karshinma, Shtetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marséna, Memucan, Tarsis, sept princes de Perse et de Médie, qui étaient les Mèdes, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Alors Memucan, il se lève, répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on emmène dans sa présence la reine Vasti et qu'elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princes de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine le rapporteront à tous les chefs du roi, de là beaucoup de mépris et de colère. Là, ça marche pas, là, le roi, là, il faut que tu fasses quelque chose. Verset 19. Si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Mèdes et des Perses et des Mèdes avec défense de transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après toute la parole de Memucan. Verset 22. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Memucan, il se lève, il dit là, ça marche pas. Parce que là, toutes les femmes du royaume vont agir de la même façon. On craint la révolution féministe qui vont se lever contre leur mari. Et là, il faut que tu fasses quelque chose. Ma femme, elle me dit, je vais citer ma femme, OK, parce que ça va mieux passer. Elle me dit, ces hommes-là avaient peut-être raison de craindre ça aussi. Mais qu'est-ce qui allait se passer? Pourquoi je dis c'est le plus vieux conflit du monde? On va voir ça tantôt. Mais exactement, il y a une attitude de l'homme envers la femme qui est néfaste et de la femme envers l'homme qui est néfaste aussi, qui est reliée à cause du péché. Et là, chacun de sa part, et là, on voit le côté des hommes. On voit qu'ils craignent la réaction des femmes. Ils voient qu'ils craignent ce qui s'en vient. Et là, il faut comprendre, là, vous vous souvenez, Vasti, elle, là, son festin avec les femmes, ça se passait pendant ce temps-là, là. Et là, les eunuques viennent chercher la reine Vasti, puis là, elle renvoie les eunuques devant les femmes. J'irai pas parader devant le roi comme ça. Imaginez toutes les princesses, toutes les chefs de commandants, toutes les femmes de commandants qui étaient là, qui ont entendu ça. Et là, Memucan est en train de dire ça. Ils vont tout entendre ça dans toutes les provinces. Ces femmes-là vont retourner, puis ça va circuler, et puis il faut faire quelque chose maintenant. Un édit royal à ce temps-là, et on va le voir plus tard dans le livre d'Esther, c'est irrévocable. On ne change pas un édit royal. Si Xerxès sort son sceau et il met son étampe là-dessus, on n'annule pas un édit royal. Et l'édit, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire, maintenant, tous les hommes seront les maîtres de la maison. La reine est divorcée. On l'a renvoyée. On va faire place à une meilleure qu'elle. Et puis, tout homme, là, on ajoute une petite clause aussi. N'oubliez pas que tout homme va parler la langue du roi, va parler la langue du peuple, parce qu'il y a beaucoup de royaumes qui sont assimilés. N'oubliez pas, vous devez parler perse. Alors, une réaction face à un problème, comme dans l'armée, on écrase l'ennemi le plus vite possible. On met un sceau là-dessus. Il faut répondre. Et le roi a manqué beaucoup de sagesse là-dedans. Parce qu'il a placé sa femme entre l'arbre et l'écorce. Parce que si la femme dit oui, si Vasti dit oui, elle est en train de déshonorer ce qu'elle est, ce que la reine était est en train de déshonorer aussi bien, toutes les autres femmes. Qu'est-ce qui s'en vient? De l'autre côté, si elle dit non, est en train de prendre position de comme une rébellion face au roi, face à l'homme. Et là, la femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'elle dise oui ou qu'elle dise non, elle va mal agir. Le roi a manqué beaucoup de sagesse. Ce soir, je vais en parler de ça. La sagesse que les hommes, on doit avoir avec nos femmes. Et le rôle que la femme a aussi avec l'homme. Mais alors, il l'a exposé, il l'a placé entre l'arbre et l'écorce. On va arrêter là pour l'instant, pour ce matin. J'aimerais qu'avant qu'on arrête, qu'on aille plus loin, puisque ça va être à suivre, allez dans Genèse, chapitre 3. Je vous parlais que le plus vieux conflit du monde est en train d'éclater en Perse. Le plus vieux conflit du monde est en train d'éclater en plein milieu de la puissance mondiale. Et pourquoi? À cause du péché. À cause du péché qu'il y a dans les relations. Les relations ont été brisées à cause du péché. L'homme et la femme ont été, se sont couverts pour se cacher l'un de l'autre, se sont cachés pour fuir Dieu. Dans le péché, le péché nous emmène à avoir ces relations-là qui sont brisées puis qui sont continuellement tendues. Et regardez le point de départ, je vous disais que il existe un grand conflit à laquelle on doit être vigilant en tant qu'enfant de Dieu. On ramène ça à nous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme, en tant qu'homme, à quoi est-ce que je dois faire attention? Regardez une des premières choses que Dieu a dit suite au péché, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Ça, c'est une chose. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Une petite phrase qui dit beaucoup de choses. Est-ce que les Écritures sont en train de dire, qu'on approfondira un petit peu plus ce soir, la femme, dans le péché qui est entré dans son cœur, va chercher à prendre la place de son mari, va chercher à prendre le rôle de l'homme. Moi, je suis capable de prendre le rôle de l'homme. Moi, je suis capable de m'occuper de ça, puis je vais le faire. Ça va être la nature pécheresse qui va amener la femme à prendre le rôle de son mari. Et c'est quoi la nature pécheresse du mari envers sa femme? Je vais dominer sur elle, je vais l'écraser, je suis meilleur qu'elle. Et on voit ça, on voit pas beaucoup, on n'entend pas les discours de Vasti. On entend ce que Assuérus avec ses avocats sont en train de parler. Et l'attitude de l'homme est évidente, on va dominer sur la femme. Dieu, il dit clairement que Dieu est le chef de Christ. Il dit aussi que l'homme est le chef de la femme. Et c'est une vérité biblique. C'est une vérité biblique. Puis on doit se souvenir qu'à l'image que Dieu est le chef de Christ, l'homme est le chef de la femme, mais ce n'était pas du tout ça que Assuérus avait derrière la tête en disant « L'homme, il va dominer dans sa maison. Ça va être lui le roi. Ça va être lui qui va agir comme ça. » Quand on regarde la vie d'Assuérus, comment ce conflit-là a terminé? Par un divorce. Il s'est enflammé, il était dans une position où il avait fait des mauvais choix, il était enivré, il a demandé de quoi, parce qu'il a placé sa femme entre l'arbre et l'écorce, il s'est enflammé de colère, puis ça a fini que par un divorce aussi. Puis ça s'est terminé avec un édit royal où voici comment est-ce que ça doit se passer maintenant dans les maisons. Il y a un conflit qui existe où ce que la femme va prendre le rôle de l'homme, tes désirs vont se porter vers ton mari, mais il dominera sur toi. Deux conséquences directes reliées à nos relations. J'emploie un mot ce matin, pas très populaire, qu'on va réutiliser ce soir, la soumission. La soumission n'est pas la conséquence du péché. Je peux le répéter. La soumission n'est pas la conséquence du péché. L'insoumission est la conséquence du péché. Le manque d'amour, l'amour n'est pas une conséquence du péché. Si le mari doit aimer sa femme, ce n'est pas une conséquence du péché. Mais le manque d'amour du mari envers sa femme, c'est une conséquence du péché. Le péché nuit à nos relations. On doit constamment être vigilant. Et maintenant, on voit dans le premier chapitre d'Esther un divorce, une situation qui finit par éclater aux yeux de tous. Et voici l'évidence d'un péché qui règne entre l'homme et la femme dans la relation et qui s'applique plus loin. La femme veut prendre la place de l'homme, l'homme veut réagir avec domination. Tantôt, je vous parlais qu'Esther, elle s'en vient. On ne voit pas beaucoup encore la femme d'influence. Et on va voir comment est-ce qu'elle va rentrer tout de suite après ce conflit-là qui vient de se passer. Mais l'homme doit agir avec sagesse, avec sa femme. La Bible dit, 1 Corinthiens 11:11, « La femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » si je veux une femme d'influence, je suis marié à une femme, et si je veux qu'elle devienne une femme d'influence, si je veux qu'elle soit une femme qui peut m'influencer positivement, je dois pas user justement de domination ou d'user de écraser que ce soit ses sentiments, ses idées, ses intérêts, et qu'à chaque fois qu'elle me dit quelque chose, je vais réfuter ce qu'elle me dit en dominant sur elle. De la même façon, ça pourrait me décourager si ma femme, par exemple, elle me dit « tu seras pas capable de t'en occuper, laisse faire, regarde l'autre fois, ça a pas marché ». Ça peut me décourager. Si je veux être un homme de courage, j'ai besoin que ma femme connaisse mon rôle et puis qu'elle me laisse l'exercer. Si je veux que ma femme soit une femme d'influence, je dois connaître son rôle et lui donner la place de l'exercer aussi son rôle. Lui dire, tu peux être une femme d'influence. Les femmes, la Bible est claire, ce soir on en parlait, est-ce qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme? Évidemment, la Bible est la première qui va l'enseigner. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vit dans ces tensions-là de mouvement qui peut-être est en train de perdre un peu de vitesse, là? Mais le féminisme, là, ça date pas là, des années 70, là. Ça date depuis toujours avec Adam et Ève. Et de la réaction de l'homme de dominer sa femme, c'est une conséquence aussi du péché. En tant qu'enfant de Dieu, on doit connaître ça. On doit honorer Dieu à travers nos relations, et même premièrement envers nos relations entre hommes et femmes, entre mari et femme. Et ça, la parole de Dieu, elle est très claire sur ça. On va y revenir ce soir. Est-ce que mon foyer est un endroit de paix? La guerre a éclaté en plein milieu de la Perse à cause d'un conflit entre le roi et la reine. Mais est-ce que mon propre foyer est un endroit où ce que ma femme est en paix? Où ce que moi je suis en paix aussi? Où ce qu'il fait bon vivre? Où ce que les autres membres de ma famille trouvent aussi leur joie? Où ce qu'ils sont bien? Je pense que quand on réfléchit à ces questions-là, ça peut nous donner un bon indice de à quoi ressemblent nos relations entre mari et femme. Est-ce que pour moi, le travail devient un échappatoire finalement à la famille, à ma relation avec ma femme? C'est peut-être un indice aussi qu'il y a un problème qui existe entre moi et ma femme, entre les difficultés. Je parle beaucoup de relations conjugales, mais il y aura d'autres, ceux qui sont célibataires, vous en aurez pour votre compte aussi plus tard avec Esther, là, et puis Néhémie. Mais est-ce que je suis encore une aide pour mon conjoint? Hein? Si Dieu a créé Ève pour être une aide, est-ce que je suis encore une aide pour mon conjoint? Est-ce que je suis encore un protecteur pour ma femme aussi? Ou est-ce que je vais en prendre soin, je vais lui donner sa place et puis il va pouvoir user certainement d'influence sur ma vie? La Bible est claire sur les rôles entre mari et femme. Puis on va arrêter là pour l'instant, à suivre ce soir. Et où est Dieu dans tout ça? Dans le livre d'Esther, Dieu est présent. Souvenez-vous de la dernière phrase de Mémucan. Je vais le citer. Souvenez-vous-en, mais attendez un petit peu. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Qui s'en vient? Esther. Et Esther est une femme qui craint Dieu, qui aime Dieu, et c'est une femme, effectivement, qui est une femme d'influence. On va regarder son exemple dans les semaines à venir. Je vais terminer par un mot de prière. Seigneur, on vient devant toi encore pour te louer. Ta parole est bonne, Seigneur, à nos vies, à nos cœurs, parce que c'est toi. Seigneur, tu nous mets en garde contre notre propre cœur, contre notre propre péché, contre des nœuds qui sont faits dans nos vies qu'on prend pour acquis, et Seigneur, tu veux les dénouer. Tu veux nous montrer les choses qu'on a à abandonner, les choses qu'on a à travailler. Et Seigneur, il est clair aujourd'hui que dans notre société, beaucoup de problèmes existent reliés entre les relations hommes et femmes. Et en tant qu'enfant de Dieu, on veut t'obéir, on veut te suivre, on veut reconnaître la vérité dans ta parole et les mettre en pratique. Seigneur, on veut t'obéir, on veut te suivre. Serre cette parole dans nos cœurs, Dieu, pour qu'on puisse la comprendre et la mettre en pratique. Dans le nom de ton Fils Jésus, qu'on te prie. Amen. Je vais t'inviter.